Leçon 6. La préparation au mariage. Objectif de la leçon. À la fin de cette leçon, les étudiants doivent être en mesure de 1. Réaliser l'importance d'un choix judicieux du conjoint. 2. Décrire le type de personne digne d'épouser un chrétien sur la base des critères et des principes bibliques. 3. Appliquer les principes bibliques à l'implication des parents dans les relations avant le mariage. 4. Prendre des décisions avisées dans les relations amicales avant le mariage. Ruth et Samuel. Ruth a grandi dans une famille chrétienne en Inde. Un jour, sa famille lui a parlé d'un jeune prédicateur nommé Samuel qui cherchait une épouse. Ils ont également parlé d'elle à Samuel. Ruth a répondu qu'elle ne souhaitait pas le rencontrer. Un jour, en rentrant à la maison le soir, elle a découvert que Samuel l'attendait depuis plusieurs heures. Elle n'était pas très contente de le voir, mais elle s'est assise pour l'écouter. Il lui a dit « Je suis enseignant dans un institut biblique. Mon salaire n'est pas très élevé. Je voyage également pour prêcher l'évangile dans des régions difficiles, et il m'arrive de dormir à même le sol. Es-tu prête à souffrir avec moi ?» Pendant qu'il parlait, Ruth s'est mise à pleurer, car elle a ressenti que Dieu lui révélait qu'il était l'homme qu'elle devait épouser. Après cette conversation, ils se sont rencontrés occasionnellement, mais jamais seuls, jusqu'au mariage. Aujourd'hui, ils exercent ensemble un ministère depuis de nombreuses années. Le choix du conjoint. Choisissez avec soin. Jésus a déclaré que le mariage est un engagement à vie, selon le dessein de Dieu. Matthieu 19, 6 à 8. Le mariage n'est pas un engagement à court terme, mais une union pour la vie, qui dure jusqu'à la mort de l'un des conjoints. Romains 7, 2. Faites un choix judicieux. Vous ne partagerez pas uniquement les moments agréables et la joie de vivre. Vous partagerez également les difficultés, les douleurs, les crises et les tragédies de la vie. Vous ne savez pas quel genre de chagrin vous rencontrerez. Être marié à un conjoint bon et pieux constitue une bénédiction dans les moments difficiles. Cependant, ces moments sont particulièrement pénibles lorsque votre conjoint n'est pas ferme dans le Seigneur. Vous épousez quelqu'un pour le reste de votre vie, et pour le meilleur et le pire. Choisissez votre conjoint avec soin. Vous épousez une personne avec qui fonder une famille. Votre choix déterminera le père ou la mère de vos enfants et le grand-père ou la grand-mère de votre descendance. Vous choisissez quelqu'un dont la vie spirituelle influencera profondément celle de vos enfants. Sachez que vos enfants imiteront le caractère, les habitudes et les comportements de votre conjoint, Éphésiens 5, 1. Votre conjoint façonnera et formera vos enfants par son exemple et ses paroles. Proverbes 23, 26. Choisissez quelqu'un qui éduquera et chérira vos enfants, quelqu'un qui les encadrera et les corrigera avec soin, avec diligence et avec amour. Votre conjoint aura un impact sur plusieurs générations, en bien ou en mal. Choisissez avec sagesse. Lisez Proverbes 14, 1, Proverbes 24, 3 à 4 et Proverbes 31, 10 à 12, 30. Le choix d'un conjoint est la deuxième décision la plus importante de toute votre vie. La première étant le choix d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Votre choix aura un impact sur le cours de votre vie et affectera plusieurs autres personnes. Un choix judicieux constitue une source de bénédiction pour vous et pour de nombreuses autres personnes. Un choix insensé causera du tort, à vous et à plusieurs autres personnes. Choisissez dans la prière. Personne au monde n'est parfait. Vous avez des problèmes, des faiblesses et des échecs. Votre conjoint sera lui aussi imparfait et le restera tout au long de sa vie. Par conséquent, ne cherchez pas un conjoint parfait. Cherchez plutôt un conjoint qui aime Dieu sans réserve. Cherchez une personne humble qui admettra et corrigera ses erreurs et ses échecs. Un tel conjoint sera une bénédiction pour vous et vous pourrez vous soutenir et vous aider mutuellement dans vos faiblesses. Lisez Proverbes 11, 14, Proverbes 12, 15, Proverbes 13, 18 et Proverbes 23, 22. Choisissez avec sagesse. Choisissez pour toute la vie. Demandez conseil à des personnes pieuses et à vos parents. Écoutez leurs recommandations. Ne vous laissez pas guider par vos émotions. Le choix est trop important pour faire preuve d'insouciance. N'épousez pas un païen. Dieu attache une grande importance au mariage entre chrétiens. Cette exigence repose sur l'importance de la relation avec Dieu, qui est l'aspect le plus important de toute la vie et de l'éternité. Le mariage, la relation la plus intime entre deux êtres humains, affecte la communion d'une personne avec Dieu. Un chrétien peut difficilement maintenir une relation étroite et sérieuse avec Dieu si son conjoint est un païen. De plus, l'incrédulité d'un parent empêche les enfants de se rapprocher de Christ. Dans les familles où l'un des parents n'est pas chrétien, les enfants sont rarement tous au service du Seigneur. Dieu désire notre service et nous demande d'éduquer nos enfants pour qu'ils le servent. Genèse 18, 19, Deutéronome 6, 2, 7, Malachie 2, 15. Dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël n'avaient même pas le droit d'épouser des étrangers. Exode 34, 11 à 16, Deutéronome 7, 1 à 6, Josué 23, 11 à 13, Esdras 9 à 10. Dieu savait qu'un mariage avec des païens inciterait les Israélites à adorer d'autres divinités, détruisant ainsi leur relation avec le seul vrai Dieu. L'Ancien Testament nous révèle que ce cas de figure s'est produit en Israël. Juges 3, 5 à 7, 1er roi 11, 1 à 6, Esdras 9, 10 à 15. De nos jours, les chrétiens doivent se marier uniquement entre eux. Soyez intransigeants sur ce point. Ne justifiez pas une relation amoureuse avec un païen. Lisez 2 Corinthiens 6, 14 à 18 et 1 Corinthiens 7, 39. Lorsque votre conjoint n'est pas chrétien. Dieu ne désire pas qu'un chrétien célibataire se marie avec un païen. C'est une certitude. Toutefois, si une personne au sein d'une famille païenne accepte le salut en Christ, cette dernière doit rester dans le mariage à moins que son époux ou épouse ne refuse de rester avec elle. 1 Corinthiens 7, 12 à 16. Il existe des cas où des conjoints athées ont reçu le salut grâce à la foi de leur mari ou de leur épouse chrétienne. 1 Corinthiens 7, 14, 16, 1 Pierre 3, 1 à 2. Les chrétiens célibataires ne doivent jamais envisager de se marier avec une personne qui ne partage pas leur foi. Les caractéristiques requises d'un conjoint potentiel. La préparation au mariage passe par le développement de qualités qui aideront le futur marié à être un bon conjoint. Lorsque vous recherchez un partenaire de vie, cherchez une personne qui cultive ces qualités. 1. Épousez quelqu'un dont la relation avec Christ vous stimulera dans votre communion avec le Seigneur et vous aidera à grandir spirituellement. 2 Pierre 1, 5 à 9, 2 Pierre 3, 18. 2. Épousez quelqu'un qui possède un bon caractère. Éphésiens 5, 33 invite les femmes à respecter leur mari, indépendamment du caractère de ceux-ci, le respect étant toutefois plus facile lorsqu'elles sont mariées à des hommes dignes de respect. Un bon caractère englobe des comportements tels que le pardon, la maîtrise de soi, l'humilité, la diligence, la responsabilité et un état d'esprit propice à l'apprentissage. La personne que vous épousez ne sera pas parfaite, mais elle doit progresser dans ses comportements. Les exigences de Dieu à l'égard des dirigeants de l'Église et de leurs épouses sont élevées. 1 Timothée 3, 2 à 4, 8 à 9, 11 à 12. Tite 1, 6 à 8. Si un dirigeant de l'Église est marié à une femme dont le caractère est déplorable, son ministère en prendra un grand coup. 3. Épousez quelqu'un qui se forge une réputation de pureté et de bonne conduite. 1 Timothée 2, 9 à 10, 1 Timothée 3, 7, 2 Timothée 2, 19, Tite 1, 15, Tite 2, 4 à 5. 4. Épousez quelqu'un qui raisonne selon la Bible. Psaume 119, 66. Face à la tentation, à la peur, à une mauvaise attitude ou à une démotivation, il se souvient de la parole de Dieu, y croit et obéit. Proverbe 4, 4 à 6. Josué 1, 7 à 8. Lorsqu'ils sont confrontés à un besoin, à un danger, à une affliction ou à une difficulté quelconque, ils apprennent à porter leur attention sur Dieu et à trouver l'aide dont ils ont besoin dans sa parole. Psaume 119, 50, 92, 114. 5. Épousez une personne qui sera un bon père ou une bonne mère pour vos enfants, quelqu'un qui leur enseignera les voies de Dieu et mènera sous leurs yeux une vie chrétienne exemplaire. Proverbes 6, 20 à 23, Éphésiens 6, 4, 2 Timothée 1, 5, 2 Timothée 3, 14 à 15. 6. Épousez quelqu'un qui a choisi d'être sous l'influence d'amis et de mentors pieux. Psaume 119, 63, 2 Timothée 2, 22. 7. Épousez quelqu'un qui est soumis aux autorités. Un homme sage cherche à épouser une femme soumise. Éphésiens 5, 22. De même, la femme doit épouser un homme soumis à Dieu et aux personnes qui possèdent une autorité sur lui, conformément à la volonté de Dieu, dans l'Église, dans son lieu de travail et dans le gouvernement. Romains 13, 1, Éphésiens 6, 5 à 8, Hébreux 13, 17, 1 Pierre 5, 5. Lorsque son mari va se soumettre à Dieu, elle se sentira protégée et bénie. Les mariages arrangés par les parents. Il est normal, dans de nombreuses cultures, que les parents arrangent le mariage de leurs enfants. Par exemple, dans un certain grand pays, les parents trouvent un conjoint possible pour leur enfant et discutent avec les parents de ce dernier. En général, ils organisent ensuite une rencontre entre le fils et la fille. Les jeunes se rencontrent une, deux ou trois fois avant de prendre la décision de se marier ou non. Les enfants peuvent disposer du choix d'accepter ou non la personne choisie par les parents, mais ils ne disposent pas du temps nécessaire pour bien se connaître. Dans ces cultures, les parents chrétiens doivent suivre les principes bibliques lorsqu'ils cherchent des conjoints potentiels pour leurs enfants. Ils doivent rechercher des conjoints pieux, sages et matures pour leurs enfants. Ils doivent rechercher des personnes qui accordent la priorité à Dieu dans leur vie. Ces éléments doivent influencer le choix des parents, plus que l'éducation, la profession, le statut social ou le niveau financier. Les mariages arrangés de manière indépendante. La sagesse pour les parents d'enfants majeurs qui choisissent leur conjoint. Dans certaines sociétés et cultures, notamment en Europe et en Amérique du Nord, les jeunes adultes choisissent généralement eux-mêmes leur conjoint, sans aucune intervention de la part de leurs parents. Les parents chrétiens, dans ces cultures, peuvent penser qu'ils n'ont guère d'influence sur la décision que prend leur enfant sur le mariage. Les parents peuvent considérer qu'ils ne doivent pas s'opposer, même s'ils n'approuvent pas le choix de la personne que leur enfant envisage d'épouser. Ils peuvent craindre que des critiques n'entraînent des problèmes relationnels avec leur enfant et leurs beaux-enfants dans le futur. Même si les parents chrétiens ne choisissent pas le conjoint de leurs enfants, ils doivent influencer ce choix. Les parents doivent aborder ce sujet avec leurs enfants lorsqu'ils sont encore jeunes. Ils doivent modeler à dessein la pensée et les valeurs de leurs enfants, Deutéronome 6, 5 à 9. Comment un parent peut-il y parvenir? 1. Soyez vous-même un bon modèle à suivre en tant qu'époux et parent pieux. Si vous n'obéissez pas aux principes de Dieu, vos instructions aux enfants n'auront pas de valeur. Si votre comportement ne correspond pas à votre message, vos enfants imiteront votre comportement au lieu d'écouter votre parole. 2. Insistez sur les normes divines concernant le but de la vie, l'objectif et la signification du mariage et les qualités à rechercher chez un conjoint, Psaume 34, 12 à 13. Lorsque nous regardons, écoutons, lisons ou observons les valeurs du monde, nous enseignons à nos enfants que le monde est notre modèle, en lieu et place de la parole de Dieu. Au lieu d'agir ainsi, nous devons aider nos enfants à développer des désirs pieux en utilisant l'exemple de personnes qui suivent les desseins de Dieu. Nous devons souligner les bénédictions de ces personnes en raison de leur obéissance à Dieu. 3. Enseignez à vos enfants que le critère principal dans le choix d'un conjoint est le caractère. Enseignez à vos enfants, dès leur plus jeune âge, à observer et à apprécier le bon caractère des autres, plus qu'un corps ou une personnalité attractif. Apprenez-leur à déterminer si leurs camarades sont responsables ou paresseux, obéissants ou rebelles, honnêtes ou trompeurs. Apprenez-leur à accorder plus d'importance à leur caractère par rapport à leur apparence. Si les parents souhaitent que les enfants prennent en compte leur opinion lors du choix des conjoints, ils doivent enseigner à ces derniers qu'il est judicieux d'écouter son père et sa mère. Proverbe 1, 8. L'adolescence ou l'âge adulte est trop tardif pour cet enseignement. Les parents doivent l'enseigner lorsque leurs enfants sont encore en bas âge. Proverbe 4, 3 à 9. Écouter des parents pieux représente un moyen pour Dieu de protéger et de bénir les enfants. Comme indiqué dans la leçon 4, les parents ont la responsabilité devant Dieu d'aider leurs enfants à conserver la pureté morale dans leur relation avec autrui. Pour y parvenir, ces parents doivent entretenir une relation saine et ouverte avec leurs enfants, de sorte qu'ils soient disposés à leur rendre des comptes et qu'ils acceptent leurs conseils. Ce type de relation se construit dès les premières années de l'enfance, lorsque les parents enseignent, éduquent, dirigent et corrigent leurs enfants quotidiennement et avec diligence. La sagesse pour les jeunes qui choisissent un conjoint. La sagesse de Dieu accompagne les jeunes chrétiens qui doivent prendre eux-mêmes une décision concernant le mariage. Voici quelques conseils judicieux pour prendre de bonnes décisions. 1. Rejeter les propositions contraires à la Bible. Nous savons par exemple que la volonté de Dieu interdit aux chrétiens d'épouser des païens. Par conséquent, nous ne devons même pas songer à nouer une relation amoureuse avec un païen. 2. Priez pour la sagesse. Proverbe 2, Jacques 3, 13, 17. Lorsque nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, il nous accorde la sagesse. La sagesse provient de l'étude minutieuse et de l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu nous accorde également la sagesse par le biais des conseils de personnes pieuses. La sagesse de Dieu nous protège du péché et du mal. Sa sagesse nous apporte des bénédictions et nous donne l'occasion d'expérimenter son meilleur plan pour notre vie. Par-dessus tout, lorsque nous prenons des décisions sages, nous glorifions notre Père céleste. 3. Suivez les directives du Saint-Esprit. Psaume 119, 133. Proverbe 3, 5 à 7. Jérémie 10, 23. Le Saint-Esprit ne nous incitera jamais à désobéir à la parole de Dieu. Au contraire, il nous la rappelle avec fidélité. Jean 14, 26, Jean 16, 13 à 14. Il protège les enfants obéissants de Dieu contre le péché et les récompense par la vie et la paix. Romains 8, 5 à 6, 13 à 14, Galates 5, 16, 22 à 25. Même si vous n'avez pas connaissance de tous les détails de la volonté de Dieu dans une situation donnée, vous devez obéir aux certitudes déjà existantes. Vous savez que Dieu exige votre fidélité spirituelle et morale. Il vous demande d'éviter certaines choses et d'accepter d'autres. Accomplissez des actes justes en priant pour obtenir la direction de Dieu. 4. Accordez une grande attention aux conseils des personnes pieuses. Les jeunes issus de familles pieuses doivent solliciter la sagesse de leurs parents. Ils doivent être transparents et honnêtes envers leurs parents au sujet de leurs projets de mariage. Ils doivent être attentifs aux préoccupations de leurs parents. Dieu leur a donné des parents pour les protéger du mal et leur prodiguer des conseils. Les jeunes ne doivent pas gâcher l'occasion de recevoir ces bénédictions. De nombreux jeunes chrétiens n'ont pas la possibilité de bénéficier de l'aide d'un membre de leur famille plus âgé et pieux. Ils doivent absolument prendre conseil auprès de personnes pieuses qui ont démontré leur capacité à prendre des décisions sages et à obtenir de bons résultats. Les jeunes ne doivent cependant pas ignorer les conseils de leurs parents, même si ces derniers ne connaissent pas le Seigneur. Il peut arriver qu'un jeune soit obligé d'aller à l'encontre des souhaits de ses parents athées afin d'obéir à Dieu, mais ce comportement ne doit jamais prendre la forme d'une rébellion, 1 Samuel 15, 23, ou d'un manque de respect, Exode 20, 12. Peu importe les convictions des parents, Dieu est capable d'adoucir leur cœur pour qu'ils accordent leur bénédiction au mariage de leur fils ou de leur fille. Lorsqu'un fils ou une fille prie et est patient pour que Dieu change le cœur de ses parents, sa foi est mise à l'épreuve et fortifiée. L'amitié d'un couple avant le mariage. Si un couple dispose d'une période de fiançailles, il est préférable que l'homme et la femme se fréquentent dans des contextes variés. Ils apprendront ainsi comment chaque personne se comporte, interagit avec autrui, réagit à des situations inattendues et gère d'autres éventualités. Ce moment qu'ils passent ensemble peut les aider à déterminer leur compatibilité au sein d'un éventuel mariage. L'engagement à la pureté. Lisez 1 Thessaloniciens 4, 1 à 8 et 2 Timothée 2, 19 à 22. Dans son amour, Dieu a créé les hommes et les femmes avec des désirs et des besoins d'intimité physique et émotionnelle. Pour cette raison, les personnes qui envisagent de se marier doivent veiller à être prudentes dans leurs relations mutuelles. Selon le plan de Dieu, ces désirs doivent être comblés dans le cadre d'une union exclusive et permanente, le mariage. Si l'homme et la femme ne prennent pas un engagement ferme en faveur de la prudence et de la pureté, ils risquent de désobéir à Dieu en obéissant à leurs impulsions au moment de la tentation. Toute désobéissance aux exigences de Dieu relatives à la pureté morale est blessante à bien des égards et affecte de nombreuses personnes, et pas seulement l'homme et la femme concernés. La désobéissance entraîne le regret, la servitude, la culpabilité, la honte, la peur, la méfiance et la rupture des relations. Ceux qui suivent le plan de Dieu concernant la pureté bénéficient de nombreuses bénédictions. Les individus qui honorent Dieu par leur obéissance peuvent bénéficier de toutes les bénédictions qu'il a préparées pour eux. Au lieu des conséquences de la désobéissance, ils connaîtront la joie et la paix. Ils pourront se faire confiance. Ils seront capables de nouer une relation épanouie avec le Seigneur et leurs semblables. Ces bénédictions constituent une motivation solide pour le respect du plan de Dieu concernant la pureté. Cependant, la principale source de motivation des chrétiens dans ce domaine doit être leur désir d'honorer le Seigneur Jésus dans tous les aspects de leur vie. Un couple en période de fiançailles doit se poser la question suivante. Quel est le meilleur moyen d'honorer Dieu dans notre relation? Comment pouvons-nous apporter le plus de gloire à Jésus? Pour éviter les actes impurs, les personnes fiancées doivent être prudentes à l'augmentation des contacts physiques. Elles doivent éviter de séjourner longtemps seules dans des lieux où elles estiment que personne d'autre ne saura ce qu'elles font. Les couples sont confrontés à la tentation lorsque le contact physique devient plus important que la communication dans leur relation. L'incapacité de gérer correctement les questions spirituelles et relationnelles peut résulter d'une prédominance des désirs physiques dans leurs pensées et dans leur cœur. Au début de votre relation, décidez ensemble des activités à entreprendre et à éviter dans le cadre de vos échanges avant le mariage. Votre plan doit vous protéger contre le péché, vous aider à aimer votre futur conjoint et vous permettre d'honorer Dieu. Respectez ce plan. Rendez des comptes à des mentors pieux et écoutez leurs conseils et leurs mises en garde. Passez du temps ensemble avec des amis et des personnes pieuses au sein de votre famille. Les activités qui favorisent la croissance. La période des fiançailles est destinée à mieux se connaître, mais elle doit aussi constituer une occasion de croissance. Voici quelques idées d'activités qu'un couple en période de fiançailles peut accomplir ensemble. Réaliser des projets de travail. Développer de nouvelles compétences. Lire de bons livres et en discuter. Étudier ou mémoriser des passages bibliques et en discuter. Planifier et exécuter ensemble des activités liées au ministère. Garder les enfants ensemble. Passer du temps avec la famille de l'autre. Ces activités serviront à aider l'homme et la femme à se connaître. Aider l'homme et la femme à découvrir s'ils sont compatibles. Accroître leur capacité à bien communiquer l'un avec l'autre. Aider l'homme et la femme à s'épanouir. Sujet de réflexion. Quels principes et idées sur la période des fiançailles vous semblent nouveaux? Comment les chrétiens de votre région doivent-ils appliquer les principes bibliques pour vivre dans la pureté et honorer Dieu dans les relations avant le mariage? Les sujets à aborder avant le mariage. Dans les cultures où le couple apprend à se connaître afin de prendre une décision, certaines questions importantes doivent être abordées avant le mariage. Dans certaines cultures, les modalités du mariage ne permettent pas des conversations aussi profondes avant le mariage. Dans l'idéal, les parents échangent des informations pour s'assurer que les deux futurs mariés s'accordent bien. Dans les cas où les futurs mariés se connaissent peu, ils abordent ces questions après le mariage, mais leurs choix ne peuvent plus être influencés, puisqu'ils ont déjà pris un engagement l'un envers l'autre et envers le Seigneur. La compatibilité de l'homme et de la femme dans le mariage est d'autant plus grande que leurs convictions, leurs origines, leur culture, leurs objectifs de vie et leurs valeurs sont similaires. Si possible, un couple qui envisage de se marier doit consacrer du temps pour discuter sur les points suivants. Leurs objectifs de vie, les valeurs importantes pour chacun d'entre eux, leur enfance et leur éducation, leur relation avec leurs parents et d'autres membres de la famille, leurs convictions doctrinales personnelles et les pratiques qui découlent de leur foi, notamment la discipline spirituelle, la participation aux activités de l'Église et les actes de service et de ministère, leur conception et leurs convictions concernant l'éducation des enfants, notamment la pédagogie, la formation, la discipline et les enseignements sur la connaissance et l'obéissance à Christ. Leur vision sur les finances, notamment les dépenses, l'épargne et la vie en période difficile. Les problèmes de santé physique ou mentale ou tout handicap dont ils souffrent, ainsi que les problèmes de santé courants dans leur famille. Au cours de cette partie de la relation, vous devez aborder les sujets difficiles et compliqués de la vie. Après avoir formulé vos promesses à Dieu et à votre conjoint, vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Dans le mariage, le mari et la femme partagent tout ce qu'ils sont l'un avec l'autre, d'où l'importance d'une communication honnête avant le mariage. Les discussions doivent être toujours plus ouvertes et approfondies. Si la personne que vous souhaitez épouser n'est pas disposée à aborder ces questions importantes, il s'agit là d'un signe de danger majeur. Juste avant le mariage, un couple doit discuter de ses convictions, de ses attentes et de ses désirs concernant la relation sexuelle au sein du mariage. Parler de sexualité trop tôt dans la relation peut entraîner des tentations inutiles, toutefois, il est important d'en parler avant le mariage. L'homme et la femme qui se marient ont tout intérêt à se ressembler sur le plan intellectuel, avoir des attentes similaires pour la vie de couple, avoir des convictions doctrinales et des pratiques religieuses similaires, avoir des valeurs et des pratiques similaires quant à l'utilisation de l'argent et du temps, avoir une vision commune des détails de la vie et de l'éducation des enfants. Les signes de danger dans la période des fiançailles. John Drescher a dressé une liste de 8 problèmes qui devraient amener l'homme ou la femme à envisager sérieusement de mettre fin à des fiançailles. Adapté des travaux de John Drescher, For Better, For Worse, A Premarital Checklist, Morgantown, Pennsylvania, Mastoff Press, 1999, pages 30 à 31. 1. Des disputes fréquentes entre votre fiancé et vous. 2. Vous évitez d'aborder des sujets sensibles parce que vous avez peur de blesser votre fiancé émotionnellement. Si vous vous dites « je ferais mieux de ne pas en parler », c'est un signe de danger. Le mariage implique la nécessité d'aborder de nombreux sujets avec confiance et avec amour. 3. Votre relation devient de plus en plus physique. Plus un couple non marié est proche physiquement, moins il apprend à communiquer par les mots, le ton de la voix, les expressions faciales et le langage corporel. Se toucher plus souvent et parler moins souvent peut constituer un véritable signe de danger. 4. Vous avez l'impression de rester dans la relation à cause d'une peur quelconque. Par exemple, « j'aimerais mettre fin à la relation, mais je ne veux décevoir personne. » 5. Votre fiancé n'est pas capable d'accepter les critiques constructives. Votre fiancé refuse-t-il de demander des excuses lorsqu'il a tort? Cette attitude est nuisible à court terme et le sera encore plus à long terme si vous vous mariez l'un avec l'autre. 6. Des parents ou des amis proches s'opposent à votre relation et à votre éventuel mariage. Il s'agit d'un signe de danger qui doit vous inciter à envisager de mettre un terme à votre relation. En effet, le mariage ne se limite pas à une personne, il s'agit d'une famille qui aura un impact considérable sur la sécurité et la réussite de votre mariage. 7. Votre fiancé est excessivement jaloux ou méfiant. Par exemple, si votre fiancé met en doute votre parole ou ne vous fait pas confiance, c'est un signe de danger. La méfiance est fatale à toute relation conjugale. Mettez donc un terme à la relation dès que possible. Si votre fiancé est excessivement jaloux ou ne vous fait pas confiance. 8. Vous éprouvez un malaise au sujet de la relation, notamment lorsque vous êtes seul avec votre fiancé. Vous avez l'impression ou la conviction que quelque chose ne tourne pas rond. Attention à ce manque de paix intérieure. Conclusion. Proverbe 24, 3 à 4. C'est par la sagesse qu'on construit une maison et par l'intelligence qu'on la rend solide. C'est grâce au savoir que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Le choix d'un conjoint est l'une des décisions les plus importantes que l'on puisse prendre. Dieu se réjouit d'aider ses enfants à opérer des choix judicieux lorsqu'ils envisagent de rencontrer un conjoint potentiel et de mieux le connaître. Prière. Père Céleste, merci de nous guider et de subvenir à nos besoins. Merci pour les principes contenus dans ta parole qui nous aident à opérer des choix judicieux et à prendre des décisions importantes dans la vie. Aide-nous à respecter tes priorités lorsque nous choisissons notre conjoint. Aide-nous à être les hommes et les femmes que tu attends de nous. Aide-nous à être humbles et à écouter les conseils de personnes pieuses. Nous voulons mener une vie sainte et féconde qui t'honore. Amen. Mener une vie sainte et féconde qui t'honore. Amen.